Et pour ceux qui seront là et pour ceux qui ne seront pas là, je voudrais vous adresser des encouragements pour ce carême, comme pour tous les carêmes. Et ne voyez pas le carême comme un pensum. Ne voyez pas le carême comme un effort à faire. Voyez le carême comme une bouffée d'oxygène. C'est au contraire une libération. Vous en avez tous l'expérience. Il y a plus de joie à aimer qu'à être aimé. Il y a plus de joie à pardonner qu'à être pardonné. Il y a plus de joie à ne pas manger qu'à manger. C'est-à-dire que, même s'il y a un effort physique évident, la cèse carémique, et comme je vous disais en commençant, une bouffée d'oxygène. C'est une grâce de Dieu qui nous est donnée pour un moment particulier, relativement prolongé, parce qu'on a pour une cinquantaine de jours, mais relativement court encore, parce que qu'est-ce que ça représente dans une année, à condition de ne pas trop compter les jours de jeûne qui sont entre deux, parce que sans quoi ça fait la moitié de l'année, mais enfin bon. Qu'est-ce que ça représente quand même? À un moment donné, il nous est, toute l'Église, depuis 2000 ans, et même avant, parce que déjà ça existait dans l'Ancien Testament, tout le monde retranche certaines nourritures en signe de liberté. On se libère des poids de notre condition humaine. On se libère du poids de nos nécessités. On devient libre. Et c'est pour cela que dans l'Évangile, comme nous avons lu tout à l'heure, le Seigneur nous dit de ne pas montrer des visages tristes. Ce n'est pas simplement une question morale de montrer à tout le monde, regardez, je suis triste, vous voyez bien, je jeûne, c'est dur. Ce n'est pas seulement cette question-là. C'est que si vous jeûnez, vous êtes joyeux. Si vous jeûnez, c'est que vous recevez la paix de Dieu. Si vous jeûnez, c'est parce que vous avez en vous la grâce de Dieu. Si vous jeûnez en rechignant, là vous n'avez pas la grâce de Dieu, donc là vous pouvez être triste. Mais si vous le faites avec ce que vous avez comme générosité, parce que ça nous coûte tous, malgré tout, c'est à ce moment-là que l'Esprit Saint descend en vous et fait de vous d'autres hommes. Et ce carême, devient ainsi l'expérience non intellectualisée, c'est dans notre corps, dans notre être tout entier, l'expérience d'une autre vie, la vie éternelle après laquelle nous courons. La vie du paradis à venir, l'avenir du royaume des cieux, n'est pas pour nous une espérance, c'est une expérience. Ce n'est pas une espérance qui doit venir si tant est qu'on soit bien tenu et qu'on n'ait pas fait trop de bêtises sur terre, mais c'est une expérience à laquelle nous participons dès aujourd'hui, une expérience prophétique qui nous fait réaliser dans notre être la condition qui sera la nôtre après notre mort. J'ai pas trop ce souvenir-là personnellement, mais d'après ce que me disent les médecins, il semble qu'un enfant dans le ventre de sa mère sent déjà les odeurs de maman et de papa, des frères et sœurs et toutes les autres odeurs qui l'entourent, entend déjà les voix des uns et des autres, etc., etc. Il a pas une prémonition, mais il a une pré-expérience, si je puis dire, de ce que sera sa vie d'après la naissance. Et la vie qui sera après sa naissance n'est pas tellement différente de celle qu'il avait avant. C'est le même cœur qui bat, c'est le même corps, c'est la même âme d'ailleurs. Mais il y a une transfiguration, il y a un changement quand même, un changement d'état, une métamorphose. Eh bien, après notre mort, il y a la même métamorphose. On abandonne la lourdeur de notre condition humaine déchue. Et c'est pour cela que la mort est une grâce. Pas une punition, mais une grâce. Par la mort, Dieu nous permet que tout ce qui est trop humain en nous, tout ce qui est humain, tout ce qui vient de nous, tout ce qui est mal, suscité par le démon, tout ce qui est déchu plus exactement, tout ça est effacé, ça n'existe plus. Pour ne garder que ce que nous avons reçu et gardé de la grâce de Dieu pendant notre vie, pendant notre gestation terrestre. Mais cette gestation terrestre est déjà une partie, non, déjà par notre ascèse, par notre prière, par notre vie chrétienne tout simplement, par notre essai de charité, par notre essai d'amour profond, nous fait déjà goûter la troisième vie, si je peux dire la troisième phase de notre vie. Ainsi, nous serons libérés. Et c'est cette libération-là à laquelle il faut être attentif pendant le carême, comme pendant toute ascèse. Donc, entrer dans ce mystère du carême, vraiment comme un mystère, comme un sacrement. Le carême, c'est un don de Dieu qui demande notre participation. Mais cette participation n'est pas cruelle. Ce n'est pas un sacrifice que Dieu nous demande. Ce n'est pas ni une punition, ni une privation. C'est un choix, au contraire. Ce choix est conforme à la volonté de Dieu. Dans le Notre Père, on dit que ta volonté soit faite, comme elle est au ciel, aussi sur la terre. Je traduis littéralement là. Si on demande que ta volonté soit faite, c'est parce que il se pourrait que sa volonté ne se fasse pas. Dieu ne nous impose pas sa volonté. Pour que sa volonté s'accomplisse, il faut encore que nous y participions. On peut faire échec à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, vous la connaissez, vous? Nous l'avons, elle est décrite dans tout l'évangile, le Seigneur nous l'indique, notamment, pour résumer, notamment dans la grande prière sacerdotale qu'on trouve, qui est relatée par Saint Jean. Père, je veux que là où je suis, il soit avec nous, un en moi, moi en toi, etc. C'est-à-dire que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons présents, pas simplement à l'avenir, sans quoi nous ne sommes pas présents, ce serait qu'une promesse, mais c'est que nous soyons aujourd'hui présents là où il est, c'est-à-dire dans le royaume des cieux. Et il faut apprendre ça. Il faut apprendre aujourd'hui à vivre dans le royaume des cieux. Alors il m'est malvenu, moi, de vous le dire, parce que j'ai du mal à le réaliser, mais c'est quand même notre but. Il ne s'agit pas de jouer les grands mystiques. Il s'agit humblement de transférer notre vie, de nous élever à une condition supérieure à celle qui nous était naturelle, mais nouvelle condition que Dieu nous accorde. Il y a je ne sais plus où, beaucoup d'entre vous connaissent l'exemple parce que j'ai plaisir à rabâcher souvent. Il y a un chapiteau roman qui représente, où on voit un vieillard chauve avec une longue barbe voûtée. Non, non, je ne me décris pas, mais je ne suis pas chauve. Qui s'appuie sur un bâton en forme de croix, un T majuscule, une taf. Et c'est notre condition humaine. Il est vieux, il est voûté sur le poids des ans et le poids de la vie, mais il s'appuie quand même. Il a besoin d'un bâton, et le bâton, c'est la croix. Évidemment, celle du Christ, c'est la sienne. Et sur ses épaules, il porte un homme jeune, qui a le même visage, mais qui cette fois-ci a des cheveux et plus de barbe. C'est-à-dire que c'est le même dédoublement du même personnage. Le saint, S-A-I-N-T, c'est celui qui vit au-dessus de sa propre condition. Et nous sommes vraisemblablement tous pécheurs, parce que nous partageons cette condition pécheresse de notre nature maintenant qu'elle est entrée dans le monde. Nous sommes tous malades, mais aussi nous avons reçu par le baptême, par la plongée dans le baptême, donc par notre élévation sur la croix du Christ, nous avons reçu cet autre homme, cet homme éternellement jeune, cet homme nouveau que nous sommes réellement. Et le carême, c'est l'espèce de taux, là, de croix sur laquelle nous appuyons, qui nous permet de nous hisser ou de nous laisser hisser en haut du mât de Kokang, c'est-à-dire en haut de notre évolution spirituelle. Donc entrer dans ce sacrement-là du carême avec enthousiasme. Et que votre enthousiasme ne tombe pas, surtout pas, même s'il vous arrive de ne pas respecter les règles du carême. Sans hypocrisie, essayez de les respecter au maximum. Mais s'il y a un échec ou des échecs, si vous n'y arrivez pas, que ce soit par obligation humaine, ça vous montrera aussi qu'on est plus attaché aux choses humaines qu'aux choses divines. Mais ou par faiblesse, par manque de courage, ça ne vous montrera aussi, ça vous fera expérimenter quelle est la profondeur de notre manque de volonté, de notre déchéance humaine, de notre préférence de nous-mêmes. Mais même ça ne doit pas altérer la joie de ce sacrement-là, la joie du carême. Parce que ce qui importe, c'est pas ce que nous réalisons moralement ou physiquement, c'est uniquement la grâce que Dieu nous donne. Donc, même en cas d'échec, que cet échec-là ne soit pas un obstacle, ne soit pas un écran entre l'amour de Dieu et notre personne. J'extrapole un peu, mais vous savez, le péché ne nous sépare pas de Dieu. Mince alors, je croyais vous scandaliser, mais j'y arrive même pas. Ce n'est pas, je veux dire par là que ce n'est pas le péché lui-même qui nous sépare de Dieu. C'est les conséquences du péché. Le remords, le faux repentir, la honte, la déception que l'on ressent à la suite du péché ou de nos péchés concrets ou de notre état de péché, c'est encore un enfermement sur soi-même, c'est encore une forme d'égoïsme. J'ai honte de me présenter devant Dieu tel que je suis. Alors, je m'écarte de lui, je l'oublie, je le mets de côté. Je lui dis de ne pas s'intéresser à moi, que je suis indigne, à mon œil. Je ne le pense pas réellement. Et ça me sépare de Dieu. Mais le péché lui-même, si vous avez mangé un bon bœuf bourguignon pendant le carême, je ne vous encourage pas à le faire. Mais croyez-vous que vous allez être damné? Parce que, éternellement, parce que vous avez mangé un bœuf bourguignon? Peut-être. Peut-être quand même. Parce que si vous mangez ce bœuf bourguignon en disant « Seigneur, tu me donnes des ordres, mais moi, tu vois, je m'en affranchis et j'en ai rien à faire », là, vous vous opposez à Dieu. Même à ça, il y a repentir possible, remarquez. Mais en soi, ça, ça vous sépare de Dieu. Mais sans quoi, c'est pas le péché qui nous sépare, mais la conséquence. Donc, dans votre enthousiasme de carême, ne vous arrêtez pas à vos échecs. La seule chose qui compte, c'est que Dieu soit, et qu'il soit ce qu'il est. Le reste, ce que je suis, moi, c'est l'affaire de Dieu. Il m'a créé comme ça, il m'a créé avec des chromosomes qui ne sont pas tout parfaitement équilibrés, avec de l'ADN qui a des petites failles, que je tienne papa et maman, grand-père, grand-mère, qui remonte à Adam. Et en cela, on est encore égaux les uns les autres. Et ça, c'est ma condition, mon état de pécheur, c'est ma condition humaine. Par contre, tout de suite, il me donne autre chose, il me donne sa grâce, il me donne sa vie. Et je ne vais quand même pas lui faire l'insulte de me lamenter sur mon sort de pécheur, alors que lui me donne la vie éternelle. Je n'ai qu'à regarder simplement la vie éternelle. Et mon sort de pécheur, c'est son affaire à lui. Et je ne blasphème pas, je ne dis pas ça d'une manière vulgaire. En prenant notre vie, en s'incarnant, le Christ a fait de notre vie son affaire. Mais nous, apprenons à faire de sa vie notre affaire. Et ça se trouve à tous les niveaux. Le carême est l'image, par exemple, l'exercice permettant d'accomplir ceci. Vous avez naturellement de l'inimitié pour quelqu'un, ou vous n'êtes pas aimé par quelqu'un, ou par un groupe, vous êtes persécuté en un mot. Naturellement, vous avez envie de vous venger, de vous défendre. Mais la grâce de Dieu qui est en vous vous permet aussi de vous confier à Dieu. Seigneur, fais ce que tu veux. Et si vous êtes persécuté, si vous devez en pâtir, quelle qu'en soit la gravité, qu'est-ce que ça peut faire? Vous voulez la volonté de Dieu. Sans quoi, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas comprendre les béatitudes. Bienheureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, qu'on vous calomniera. Sans quoi, c'est impossible. Ou alors, c'est purement moral. C'est un effort humain, un effort psychique. Mais cet effort psychique-là, à notre mort, il tombera aussi. La seule chose qui puisse demeurer, c'est la grâce de Dieu. Voilà ce qu'on apprend pendant le carême.